Bonjour mon cher Benjamin.
Bonjour Samuel.
Bienvenue, cher auditeur, pardon, oh là là, c'est dur, sur le podcast d'intérêt variable, épisode numéro 1 normalement.
C'est ça, puisque ça suit l'épisode 0.
Ah oui, c'est ça. Bon, bah ouais, nous on travaille en fait en indexé à 0, donc c'est normal, 0, 1. Ok, donc moi je vais vous parler en fait aujourd'hui, je vais faire une petite rétrospective de XAML, voilà.
Okay.
Un langage en fait de représentation, c'est plutôt sympa, on va expliquer tout ça.
D'accord.
Et toi, qu'est-ce que tu fais ?
Eh ben, je vous ai préparé un petit dossier, non pas design comme j'avais prévu la dernière fois, mais encore une fois sur de la science-fiction, mais cette fois pas de roman, et on va parler cinéma avec un film d'Alfonso Cuarón qui s'appelle The Children of Men, Les Fils de l'Homme en version française.
Très très bon film avec une très belle fin, pour une fois.
Une fois n'est pas coutume.
Exactement. Donc c'est moi qui commence alors Benjamin ?
Allez vas-y.
Allez c'est parti, je suis chaud. Alors on va parler en fait de XAML, donc XAML comme diraient les Américains. Mm-hmm. Donc XAML c'est quoi ? C'est un langage de type XML et qui est taillé pour décrire des applications. Alors si on fait un parallèle avec HTML, bien qu'on fasse plein d'applications super cool avec, c'est plutôt orienté en fait journalisme et article. Donc on le voit bien en fait dans les balises, hein, c'est un peu... C'est vraiment un langage en fait fait pour ça. XAML donc c'est très orienté application, voilà. Donc c'est apparu en 2006 avec WPF. Donc WPF qui faisait suite en fait à WinForm avant. Donc en WinForm avant on n'utilisait pas de langage en fait de description. On y allait en fait directement dans une espèce de, bon, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de fenêtre en fait où on prenait les petits contrôles, on les mettait dessus et puis voilà quoi. Hein. Donc c'est ce qui continue à se faire avec WPF. Mais par contre à la fin on a un vrai fichier XML qu'on peut modifier à la mimine. Et d'ailleurs moi c'est ce que je fais, j'utilise pratiquement jamais l'éditeur en fait de ce fichier. Et bah, je trouve ça beaucoup plus pratique comme ça. Donc en 2006 donc est créé WPF et la première occurrence de XAML. Et déjà en fait on voit à l'intérieur de ce langage des choses qui sont super innovantes quoi. Alors il y a toute une gestion de contrôle. Bon, qui existait déjà avec WinForm, donc les contrôles c'est quoi ? Il y a des text blocks, des text box, des boutons, des listes, voilà, des choses vraiment finalement relativement communes. Mm-hmm. Mais c'est géré d'une manière très particulière, puisqu'en fait, on peut complètement les templétiser. Alors qu'est-ce que ça veut dire, mon cher Benjamin ?
Ça veut dire qu'on peut, j'imagine, standardiser, enfin créer des modèles, quoi.
Oui, alors ça veut dire en fait qu'on peut changer l'aspect visuel complètement de ces contrôles en gardant les fonctionnalités.
D'accord.
Okay. Alors par exemple, prenons l'exemple d'un bouton. Si je veux que ce bouton il soit rond et pas carré, c'est-à-dire attention hein, que je clique quand je clique à l'extérieur en fait du bouton rond, eh bien le bouton il marche pas. Et ben ce que je fais, c'est que je définis un template. Je mets une ellipse dedans, par exemple, voilà, qui va représenter notre bouton rond avec du texte éventuellement à l'intérieur. Et puis voilà, c'est tout. Une fois que je vais redémarrer en fait mon projet, ben, quand je clique à l'extérieur du rond, eh ben, ça ne cliquera pas.
D'accord, et ça reste un contrôle bouton. Quoi.
Et ça reste un contrôle bouton, avec un petit événement clic qui va bien et okay. Tout ça. Donc c'est vraiment super cool en fait cet aspect de templétisation, parce que pour nos clients, quand ils nous disent « Ah non, moi j'aime pas trop ça, j'aimerais que ça soit plutôt orange, et là j'aimerais, tu vois ce dont je veux parler ?»
Faut pas mettre d'orange, c'est pas bien.
Alors ça dépend pour quel client. Eh bien, c'est tout à fait possible de le faire, et sans forcément réinventer la roue, voilà. En plus, tout est vectoriel. Donc
ça,
pas
c'est
de
cool.
Bitmap horrible et ouais. Tout, super chiant avec les résolutions. Tout est géré en fait de base. Des choses aussi assez cool, c'est les storyboards. Donc une gestion d'animation. Je vous rappelle qu'on est quand même en 2006. Donc à l'époque, il n'y avait quand même pas grand chose en fait au niveau JavaScript par exemple ou sur d'autres langages.
On pouvait déjà faire des trucs avec les storyboards vraiment sympa. Quoi.
Ah ouais, carrément. En plus, il y a eu Blend en fait derrière qui s'est.
Les suites expressions.
Bon, c'est venu un petit peu après, mais. Et là, du coup, on n'avait même plus besoin en fait de connaître le XAML pour créer en fait ces storyboards. Mmh. On y allait en fait en gérant visuellement la chose. Donc ça, c'était plutôt assez cool. Quelque chose aussi qui claquait vachement à l'époque, c'est le binding.
Ouais.
Donc en 2006, hein, les amis, ça fait plus de 10 ans, hein, ça fait 11 ans là. Donc le binding, ça existait déjà en SP .NET depuis quelques temps, mais là, couplé en fait à WPF, c'est ce qui a permis de créer le MVVM, voilà, qui est relativement connu, le pattern en fait.
Ça veut dire quoi MVVM?
Ah, ça veut dire Model View Model, et c'est, ça permet en fait justement de, d'avoir un côté vue, voilà, un côté modèle qui est data. Mmh. Alors vue, c'est vraiment en fait le côté bouton contrôle, quoi.
Le front, quoi.
Voilà, c'est le front. Ouais. Le M de modèle, donc qui correspond au data, et puis le view model, en fait, qui permet de faire la glue entre la vue et les data.
D'accord.
Voilà.
C'est une espèce de méthode plutôt le...
Ouais, c'est une pattern, quoi.
D'accord.
Pattern, alors on n'est pas obligé d'utiliser. Moi, je connais des gens très très bien qui font des applis hyper cool sans pattern MVVM.
Et ils sont très très bien quand même.
Et ils sont très très bien quand même. Tu vois, donc c'est une pattern, donc on en fait ce qu'on veut, quoi. Le truc cool aussi, c'est que tous les contrôles utilisés dans WPF, bah, dans XML en fait pour le coup, il y a du code behind en fait avec. Donc le code behind, c'est quoi? Bah, c'est du code C# qui est lié à, comment dire, à la page XML. Donc ça veut dire que si on ne veut pas utiliser XML ou qu'on veut instancier dynamiquement des contrôles, bah, on peut le faire en C#. Donc tous les noms, tous les contrôles ou les panels, etc. Donc les panels, c'est vraiment de l'ordre de du placement en fait de contrôle. Mm-hmm. C'est des contrôles un peu spécifiques, on va pouvoir mettre des choses à l'intérieur, puis ils vont se placer automatiquement. Alors ça peut être des stack panels ou des grids pour faire des tableaux. Tu vois, les stack panels, c'est pour les empiler.
Ouais.
Les grids, c'est pour faire des tableaux. Enfin, il y a d'autres trucs comme ça, tu vois.
Ça permet de faire de la mise en page, enfin, du layout très facilement.
En 2 minutes, et puis tu peux créer les tiens aussi, ça arrive rarement, mais si tu veux, tu peux faire ça. Et je sais plus ce que je disais là.
Tu parlais de... T'allais venir sur EWP, je pense, gentiment, non?
Ah non, bah pas du tout, non.
Okay.
Bah, c'est pas grave.
J'ai rien suivi alors.
C'est pas grave, tout ça pour dire que c'était hyper puissant. Alors je sais plus ce que je voulais dire, bon, c'est pas grave. Peu importe. Donc on se retrouve donc avec un langage qui est vraiment cool en C#, voilà, qui est accessible de C#. Ah oui, ça j'ai récupéré le fil. Donc si par exemple on a un contrôle qui s'appelle bouton, par exemple, ou qu'on nomme x2.name est égal à mon bouton, donc on lui donne un nom via cette balise, cet attribut x2.name, et ben côté C#, on va le retrouver automatiquement pour faire 10 points, enfin vous n'êtes pas obligé d'utiliser le 10, hein, mais mon bouton point background, donc background c'est la couleur de fond, est égal à telle couleur, quoi.
D'accord, ok.
Donc ça c'est cool aussi, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Suite à WPF est arrivé Silverlight. Alors Silverlight, c'est quoi? Bah, c'est un subset de XAML avec un portage en fait de .NET.
Okay.
Voilà. Alors ça permettait de faire quoi? Ça permettait de faire concurrence à Flash. Donc c'est vraiment un plugin spécifique pour le côté web. Alors à l'époque c'était vraiment vraiment cool parce que il y avait Flash d'un côté qui était un peu utilisé pour faire n'importe quoi. On pouvait faire des jeux, on pouvait faire des pubs, faire des applications super pointues.
Ça malheureusement été très vite utilisé pour faire de la merde.
Hein. Ouais, un truc un peu chiant, quoi. On est bien d'accord. Après moi Flash j'étais pas fan, hein, sur la manière de procéder.
Moi j'adorais, mais c'est parce que je suis pas développeur. Et je pense que c'est un truc qui parlait presque plus à des gens comme moi profil design que développeur. Enfin je sais pas.
C'était, en fait, je crois que c'était bizarre la manière dont c'était géré. Il y avait une notion de temps en fait sur le code,
ouais,
qui était super bizarre.
En fait, c'était super étonnant, ouais, parce que c'était à première vue, c'était un logiciel d'animation, quoi.
Ouais,
ça permettait t'avais une timeline avec des images clés dedans, et en fait, tu pouvais mettre du code dans ces images clés, et tu pouvais passer d'une image clé à l'autre via des go-to, machin, etc. Et donc lire du code à la demande comme ça. Mais c'était, je peux comprendre que pour un développeur, c'est un truc un peu particulier.
Ouais, c'est un peu étonnant en fait. Enfin, c'est pas du tout de la programmation linéaire comme on l'a pratiqué.
C'était hyper verbeux, hein, l'ActionScript en plus.
Donc, bon, XAML c'est verbeux aussi. Hein.
Ouais.
Mais bon, enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Silverlight, donc du coup, donc un plugin concurrentiel de Flash,
ouais,
et
ça peut se dire, ouais.
Et qui était plutôt vachement bien gaulé réellement,
ouais.
Donc avec en fait t'avais pas cette idée, cette notion justement de timeline et tout ça, donc ce qui existe pour les storyboards, mais on s'en fout, t'as vraiment en fait une exécution avec du code, typé, un compilateur, etc., et puis t'y vas, quoi. Et c'était pas mal, quoi, pour faire du RIA. Donc du client serveur, c'était vraiment vraiment chouette.
Ouais.
Donc bah, le gros problème en fait, c'est que il y a eu un moment, Steve Jobs est arrivé et puis il a dit bah moi Flash j'en veux pas sur iPhone.
Ah ouais.
Donc ça a tout cassé, ce qui fait que bah, Silverlight par la force des choses a disparu également. Donc c'est un peu dommage parce que je pense que à l'époque le HTML5 était pas du tout prêt. C'était voilà, ça c'est arrivé c'est, bien après quoi.
Ça a amené mine de rien, moi je trouve, hein, par rapport à ce qu'on était capable de faire avec Silverlight, je sais pas, mais avec Flash à l'époque, ouais, même en termes de responsive, d'animation, ah, de transition, ouais, etc. Il y avait un pack, il y a eu un gap et il y a eu une espèce de régression totale à partir, ouais, du moment où les deux plugins en fait sont morts quoi.
Donc maintenant c'est complètement comblé en fait par HTML5, CSS, etc. Mais il a fallu du temps et ouais, effectivement ça, je pense que ça a nuit. Ça nuit pas mal, je pense, à l'industrie pendant un moment.
On a perdu du temps, quoi.
Et notamment Microsoft aussi, je pense. Mais bon, voilà. Donc, on était un petit peu dégoûtés, nous, dans notre coin, parce que bah, finalement, il y a pas mal d'industries qu'on a investi un petit peu là-dedans. Mm. Et à un moment, il a fallu switcher. Heureusement, en fait, les compétences que les développeurs avaient travaillé en fait sur Silverlight, et bien ils ont pu le remettre sur Windows Phone, puisque en fait les applications au début étaient écrites en Silverlight, ouais, donc on était un petit peu content, on s'est dit bah tiens, on va en profiter en fait pour regarder comment ça marche.
Bon recyclage quoi.
Ouais, et puis en plus il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque, donc il y avait possibilité de faire un petit peu de sous, des choses comme ça, donc c'était plutôt cool. Windows Phone c'était une belle plateforme et ça l'est toujours.
C'était original à l'époque.
Voilà, maintenant bon, on a plus de problèmes, on en reparlera dans le volet UWP. Et justement, bah, Windows Phone, il y a eu un moment, en fait, une idée de se dire, bah tiens, ça serait bien si on pouvait développer sur desktop, tablette, et puis Windows Phone. Alors là, ils se sont dit, Microsoft, on va essayer de créer une espèce de moteur unifié, parce qu'à l'époque, Windows Phone, c'était Windows CE, donc ils sont passés après à un moteur un peu plus proche de Windows, côté Windows Phone, et ça a donné l'UAP, donc c'était un langage en fait un petit peu différent, ça ressemble beaucoup à du Silverlight, hein, c'est un peu plus que du Silverlight, un peu plus énervé, mais voilà, donc c'est toujours du XAML derrière, et puis cette idée d'universalité, elle est allée plus loin avec UWP, avec la plateforme Windows 10, et là on s'est retrouvé avec carrément la Xbox en fait qui fonctionne avec le même moteur, toujours les applications desktop et puis tablette, Windows Mobile,
ouais,
voilà, c'est cool, et puis de l'IoT, mais alors c'est un peu plus anecdotique en fait pour le coup. Donc tout le monde se disait putain, c'est quand même pas mal, là on a un truc qui est bien avec UWP qui est une belle, voilà, une belle plateforme avec un store qui marche pas si mal que ça.
On est en quelle année là grosso modo?
Il y a 2-3 ans quoi.
Ouais, donc c'était le moment où on était un peu hype quoi finalement.
Ouais, il y a eu ce côté hype sur
entre le côté métro qui était, ouais, qui sortait un peu des sentiers battus, carrément. et puis cette puissance de la techno.
Ouais, métro c'était quand même encore avant.
C'était avant.
Il y a peut-être 6-7 ans là pour le coup.
Ouais, oh là là,
ouais,
passe vite.
Ouais, quand même. Ouh, attention. Et UWP, alors ce qui nous a tué un petit peu, c'est la gestion du mobile par Microsoft, c'est-à-dire que tant que Nokia gérait le côté lead un petit peu des Windows Phone, ça a marché fort. Et à un moment, en fait, Microsoft a racheté Nokia, donc j'imagine que côté Nokia, ça devait pas tant performer que ça finalement, hein, ouais, parce que s'ils étaient un peu à vendre, voilà. Et donc à ce moment-là, là c'était un peu la descente aux enfers avec un Microsoft qui savait pas gérer tout simplement la téléphonie, hein,
ouais,
je pense que c'est ça,
ouais, ouais,
le gros problème. Hein. Donc dommage. Aujourd'hui on se retrouve avec une plateforme qui est un peu bancale, puisque sans la partie téléphone, c'est moins attractif quoi,
c'est
beaucoup
sûr.
Moins.
Bon alors là tu dresses un constat un peu sombre, mais
technologiquement parlant, ouais, je trouve, ouais, ça dément, hein, ce, ouais, qui a été fait. Hein. XAML, voilà. C'est, je trouve ça fou. Alors il y a quand même plein de XAML différents. WPF, c'est un XAML très, très poussé, très évolué. Voilà. Silverlight, c'est plus léger. UAP, ça a pris un petit peu d'ampleur. UWP, encore un peu plus. Mais on n'est pas au niveau de WPF non plus. Malgré qu'il y ait des choses qui soient un peu... ça dépend. UWP et WPF, ils prennent des chemins un petit peu différents. Et il y a des choses qui sont intéressantes de chaque côté. Voilà. Tout ça pour finir avec UWP, là où on disait maintenant plus de téléphone. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir du cross-platform, du XAML cross-platform.
C'est quoi. Ça qui est intéressant. Ouais.
C'est ça qui est intéressant. Et puis surtout qu'on puisse sortir un peu de l'écosystème Microsoft.
Ouais, parce qu'on a déjà du cross-device, comme tu disais, mais ouais, on est un peu en... En manque du cross-platform.
Exactement. Donc, on peut noter qu'il y a eu un Silverlight cross-platform qui s'appelait Moonlight, et qui a été fait justement par le créateur de Xamarin.
Ouais, ok.
Voilà, et donc Xamarin, qui est capable en fait de fonctionner sur iOS et Android, avec ce qu'on appelle du .NET hein, derrière, hein. C'est du mono, hein, c'est, voilà, c'est mono, c'est le portage en fait du framework .NET en open source, en libre. C'était pas open source, hein, c'était libre seulement. Et puis, je voudrais pas dire de bêtises, hein, je crois que c'est ça. Et puis de l'autre côté, en fait, de Xamarin, lui qui récupère en fait Mono et qui lui ajoute une couche portable, ce qu'ils appellent du XAML, ce qui n'en est pas, hein, c'est Xamarin Form. Ouais. C'est là, moi, où je suis pas super fan du truc, c'est que soit tu utilises leur propre XAML, qui est vraiment ultra loin en fait du XAML classique. C'est plus un fichier XML, avec des trucs qui ressemblent légèrement à du XAML. Mmh. Et puis, soit tu pars, en fait, dans la couche native. Donc, partir sur les couches natives, j'ai du mal à voir l'intérêt, personnellement. Xamarin Form, du coup, qui, lui, est portable sur iOS et Android, c'est pas du XAML, donc il manque quelque chose. Quoi. Mmh. Et donc, Xamarin a été racheté par Microsoft, par la partie Visual Studio. Il y a un moment, en fait, ça serait bien qu'il y ait une espèce de fusion. Donc, je ne sais pas trop où on en est là-dedans, dans ce côté-là. J'espère que ça va arriver, parce que je pense que c'est vraiment le futur. Si on pouvait avoir une fusion UWP Xamarin et que ça soit transparent, mon Dieu, que ça serait bien. Mmh. Il y a quelque chose qui laisse penser qu'il va y avoir quelque chose, quand même. Donc, il y a beaucoup de quelque chose. Donc, à la build, la dernière build, ils ont annoncé qu'il allait avoir, bien sûr, un .NET standard, qui est en version 2.0, mm-hmm. qui va être porté sur UWP et sur Xamarin. Donc ouais. Là, déjà, on va avoir une base intéressante, mm-hmm. ici, en termes de développement. Mais également, et ça, c'est la nouveauté, en termes de XAML. Donc, ils lancent un XAML standard qui va fonctionner, a priori, sur toutes les plateformes, WPF inclus. Cool. Pas Silverlight, hein, Silverlight ouais. C'est mort, les gars, c'est fini. Mais IWP, Xamarin et WPF. Alors, encore une fois, j'espère que ça va pas se solder juste par un changement de nom sur Xamarin Form, tu vois. Ce Xamarin Form, c'est des composants qui sont natifs.
Ouais.
Hein, d'accord. Donc les composants natifs, c'est quoi? Tu as un bouton, quand tu écris bouton dans Xamarin Form, ça va t'afficher un bouton natif côté Xamarin. Ce qui n'est pas du tout le cas sur WP.
Donc ça veut dire qu'en fonction de la plateforme, tu auras un bouton natif de la plateforme.
C'est quoi. Ça, un petit peu comme, comme du web. Quoi.
Ouais.
Voilà. Mais le problème, en fait, aujourd'hui, c'est que pour travailler à la pixel près, pour avoir un rendu équivalent partout, sur toutes les plateformes, et puis aussi pour pouvoir utiliser du templating, des choses comme ça, quand tu utilises les contrôles natifs, ça ne le fait pas. Quoi.
C'est très compliqué, ouais.
C'est compliqué. Donc moi, mon espoir secret... Hein, j'avais fait un appel à Monsieur Microsoft, à Monsieur Nintendo la dernière fois. Je fais cette fois-ci un appel à Monsieur Nintendo, Jean-Michel Nintendo. Jean-Michel Microsoft.
Confonds pas tout parce que là, ils vont être perdus. Là.
Jean-Michel Microsoft, si tu m'entends, s'il te plaît, si tu pouvais nous faire un Xamarin standard, mais avec un moteur vectoriel, tu vois, digne de ce nom, qui soit portable partout, ça serait juste génial, quoi. Voilà, et qu'à la fin, ça donne juste une compilation, ou en UWP, en Xamarin, je m'en fous, hein, du moment qu'on puisse compiler de Xbox jusqu'à iOS Android, ça serait trop trop génial, quoi. Donc, travaillez les petits, travaillez pour nous faire ça, s'il vous plaît.
Bah ouais, vive le vectoriel, hein, c'est sûr que c'est tellement puissant.
Ouais.
Après, on en a déjà parlé quelques fois entre nous, mais cet aspect natif dont tu parlais, en tout cas côté design, les discussions que j'ai pu avoir là-dessus, c'est il y a un peu les deux écoles, quoi. Il y a des gens qui vont préférer avoir, par exemple, une application iOS avec des contrôles natifs uniquement, et qui sont absolument contre le fait d'avoir d'avoir des choses personnalisées, qui considèrent que y a un look and feel. Un look and feel, pardon, à respecter sur chaque plateforme, et que si tu en sors, c'est péché, quoi. Vraiment, c'est...
Ouais, c'est péché, mais je vois bien ce que tu veux dire, mais concrètement, dans toutes les apps que j'ai dû faire pour des clients, il a toujours fallu, en fait, que je redesigne tous les boutons, tous les trucs, pour que ça rentre, en fait, dans leur charte graphique.
Bah, moi, je suis plutôt partisan du... Par exemple, si tu sors un service, et que tu crées une charte graphique, on va dire, liée à ce service, je suis partisan d'avoir une transversalité de ton design sur les trois plateformes tu aies une vraie cohérence et que tu aies un vrai package, un univers graphique autour de ton produit.
Si tu regardes les sites web aujourd'hui, il n'y a pas un site web qui utilise un bouton en fait standard. C'est tout le temps des boutons qui sont d'une seule couleur la plupart avec ce qu'on veut à l'intérieur, mais c'est tout le temps la même gueule partout.
D'autant que à une époque, même si Windows Phone ou Windows Mobile a été un peu en marge par rapport au fonctionnement ergonomique, j'entends, aux navigations, etc. Aujourd'hui, clairement, tu regardes les contrôles qui existent sur les trois plateformes, on se retrouve avec des choses très très équivalentes. Voilà. Un Tabs, c'est un Tabs, et puis ça va fonctionner de la même façon sur les trois plateformes.
Et n'oublions pas, mon cher Benjamin, qu'il y a aussi des styles qui sont applicables en fait côté XAML. Si on veut retrouver en fait un look and feel, je sais pas moi, l'iOS look and feel de Xamarin, enfin oh là là, de iOS et Android, ouais. On peut tout à fait appliquer des styles.
Oui, c'est
c'était
sûr.
Fait en Silverlight. Mmh. Donc pourquoi on peut pas le faire en fait ici?
Eh ben ouais. On peut.
Ben merci. Voilà, ça va solder en fait cette discussion très intéressante. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on passe par ce biais-là si on veut arriver à avoir quelque chose de vraiment cool à la fin et qu'on soit pas saoulé par les capacités restreintes en fait du natif.
Ouais. Il me semble que tu voulais nous parler d'un petit truc quand même pour finir ton dossier.
Alors pour finir, je voulais parler en fait de. Alors ouais, à la build ils ont annoncé des trucs très très cool sur composition aussi, mais ça concerne vraiment cette fois-ci UWP uniquement. Et il y a des petits trucs des brushes là qui vont arriver, qui reprennent en fait composition, on va pouvoir.
Donc c'est ce qui a été appelé Microsoft Fluent Design System, c'est ça?
Alors il y a un design en fait effectivement qui est mis en place à partir en fait de composition qui est finalement la couche technique. Et toi tu parles en fait des guidelines. Donc des choses très intéressantes qu'on va pouvoir faire en 2 minutes 25. Moi je suis content en fait de ça, et puis ça veut dire en fait aussi que Microsoft continue à développer sur UWP, que c'est pas une plateforme
c'est pas abandonné. Et puis on rattrape un peu de retard sur le côté matériel design d'Android qui nous avait tous mis une grosse claque il y a quelques années.
En prenant en fait des choses c'est quand même relativement proche en fait de ce que faisait Windows en affinant encore le concept.
Tout a été flatifié, si on peut dire.
Ouais.
Et puis tous les systèmes sont passés par là. Hein. iOS
complètement.
iOS était ce qu'on appelle skeuomorphiste il y a maintenant je sais pas combien ça fait d'années, mais c'était iOS 6 qui était ils ont switché à iOS 7 il me semble. Donc ça commence à faire un moment que tout est flat. Mais Material Design quand même a eu cette spécificité-là d'avoir des vrais guidelines et d'introduire aussi beaucoup d'animations, de transitions, du motion design de façon importante au sein des guidelines, ce qui n'avait pas été fait par les autres systèmes encore quand même.
Exactement. Donc voilà.
Là, c'est ce qui a été fait à la build. Je dis ça parce que c'est ce qui a été fait à la build par Microsoft.
Complètement, ouais. Je pense que c'est vraiment un pas intéressant qui a été fait. Et puis on se retrouve pour. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu des vrais guidelines en fait sur le design. Donc,
ce serait presque le sujet d'une émission complète, mais j'ai quand même un peu mis le nez dedans. Je trouve que les guidelines de Microsoft. Enfin, si on veut continuer le comparatif avec Android, Android a fait des guidelines purement graphiques et qui sont vraiment dédiés aux designers en disant là c'est tant de pixels, là contrôle tu l'utilises dans tel cas.
Qui existait sur Metro il y a quelques années.
Voilà, ça a été fait sur Windows, les guidelines du WP de façon générale, donc les guidelines de Windows, pour les développeurs et pour les designers. Et du coup, ils ont mêlé cette espèce de cahier des charges donc c'est un site, on peut retrouver le site en ligne. Ils ont mêlé un peu des guidelines développeurs et designers, et moi je trouve ça un peu étonnant parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Et puis c'est pas aussi fouillé en termes d'indications graphiques que ce qu'on peut retrouver sur Android.
Il y a des petites vidéos, des petites machins, mais derrière il n'y a pas une documentation.
Si, il y a une documentation poussée en termes de layout, en termes de d'utilisation des contrôles, de go no go. Enfin c'est pas ça, mais de là tu utilises, là tu utilises pas, là tu fais ci, là tu fais ça. Ça de ce point de vue-là c'est assez poussé, mais par contre sur le fluent design, sur l'utilisation des brushes, de l'acrylique, donc cette espèce d'effet de flou, etc. Là il y a pour l'instant très peu de choses. Donc je pense que ça va arriver. J'espère que ça va être mis à jour. Mais pour l'instant, c'est vraiment très très light.
D'accord. Pour moi, de toute façon, ça va évoluer. Oui. On arrive en fait à un truc qui mature. Et
c'est le début,
ce qu'on appelait néon aussi. Ouais. Donc on en parle depuis un moment. Là, ça sort d'une manière un peu plus officielle. Je pense que on va avoir bientôt en fait des guidelines comme tu les attends. Et
J'espère bien.
Pour finir, en fait, je voulais parler en fait de quelque chose qui s'appelle Noesis UI. Alors c'est quoi? C'est un petit plugin Unity. Alors ça marche avec d'autres moteurs. Il y a Monogame, je crois. Il y a, je sais plus, faire des moteurs de jeu en fait.
Donc Unity qui est fait pour faire du jeu vidéo, quoi.
Unity qui est fait pour faire du jeu vidéo, mais pas que, parce que c'est utilisé aussi dans HoloLens.
Ouais, tout à fait.
Donc voilà, donc là j'en parle un petit peu aussi dans cette optique-là. Si vous voulez... alors c'est quoi le but du jeu de Noasis UI? Et bah, c'est d'intégrer en fait du XAML compatible WPF.
Ouais.
C'est foufou hein, quand même. C'est fait par une boîte indépendante, c'est pas Microsoft. Et ça permet en fait justement de pouvoir d'avoir du XAML d'un côté et d'avoir du code behind sur lequel on peut travailler. Donc... Okay. C'est cool parce que c'est pour le coup de la vraie 3D intégrée à Unity, donc on peut faire des apps complètes ou on peut l'intégrer dans un monde en 3D. Mm-hmm. Et dans le cadre en fait de HoloLens, ça peut être vraiment une vraie d'une vraie aide, puisque il me semble qu'on n'a pas trop le choix. C'est soit on est en mode 3D, soit on est en mode 2D. On peut switcher entre les deux, mais il n'y a pas d'intégration des deux en même temps. Donc là, il y a une possibilité intéressante qui est offerte. Au niveau d'outillage, c'est pas terrible du tout. Voilà, on peut utiliser Visual Studio avec Unity, mais comme on le fait avec un développement standard, je dirais, d'Unity. Mais voilà, il n'y a pas ce côté super pratique, en fait, de l'intelligence, etc. Ça marche que moyennement. Mais bon, il faut rester optimiste. C'est vraiment un truc qui fonctionne bien. Moi, je l'ai testé. C'est vraiment cool à utiliser.
Ouais, et puis c'est un outil tout en un, finalement, qui te permet à la fois de faire de l'interface et, dans un second temps, des univers graphiques 3D avec...
S'il fallait le faire à la main avec Unity, tu galères. Hein. Mmh. Tu galères vraiment pour le faire. Là, en deux minutes, tu peux avoir des interfaces super cool en 3D... qui arrive hop sur ton environnement.
Donc t'as fait des tests poussés sur le truc.
J'ai fait des tests, alors pas côté HoloLens, mais vraiment je voulais faire en fait une application iOS Android qui marche même sous Windows et tout, puisque Unity pour le coup c'est vraiment cross-platform et ça tient la route. Alors le seul souci pour faire vraiment une application business, je dirais, enfin qui tienne vraiment la route, encore une fois, eh bien c'est que il n'y a pas de gestion en fait comme sur WP, enfin sur Silverlight d'une manière générale, en fait, de la pixel. C'est-à-dire que selon les résolutions, en fait, UWP par exemple, il va adapter la taille de la pixel pour qu'elle ait tout le temps la même taille. Que tu aies une résolution ultra haute ou ultra basse, ton pixel, enfin ta pixel est toujours la même taille. Quoi. Et du coup, ce qui fait que un texte, il a toujours la même taille, quel que soit l'écran. Quoi. C'est pas le cas en fait là-dessus. Et du coup, il faut utiliser des espèces de viewbox. Bon, le viewbox qui permet de rescaler en fait l'écran, c'est pas génial. Mais voilà, il faut une fois que c'est pris en compte ce truc-là, on peut vraiment faire des trucs cool.
Ok. Côté donc t'as fait des apps téléphone avec?
Alors j'ai fait quoi? Ouais, j'ai fait une app qui marchait sur Android et sur Windows.
Ouais, côté perf, etc. Ça le faisait?
Oh ouais, carrément. De toute façon, c'est un jeu, hein, c'est un jeu vidéo, hein, le truc. Hein, donc, enfin, c'est un moteur de jeu vidéo. Mm-hmm. Donc je me suis dit au début, j'avais un peu peur que ça chauffe, quoi, au niveau du GPU, parce que des fois, ça peut le faire. Alors moi, sur mon Android, ça le fait pas. Peut-être que sur d'autres...
Ça le fait pas, tu veux dire que ça ne chauffe pas?
Ouais, mais d'une manière générale, il chauffe pas trop, en fait, celui que j'ai pris. C'est un Huawei...
P9 Lite,
je crois. P9 Lite, c'est ça. Ouais, super. Il est bien conçu au niveau du GPU, il chauffe pas, quoi.
Ouais.
Donc, mais du coup, il faudrait essayer avec des téléphones qui chauffent un peu plus pour voir vraiment.
Ouais, a priori, peut-être un peu moins puissant.
A priori, il n'y a pas de souci, donc c'est plutôt assez cool.
Donc, super bonne découverte, quoi.
Ouais, moi je conseille. Et surtout, je pense pour les gens qui font du HoloLens, ça peut être un vrai plus à tester, quoi.
Ouais, complètement. Ouais, comme on disait, un outil tout en un pour faire à la fois de l'interfaçage et de l'univers 3D, quoi.
Exactement, mon cher Benjamin.
Super.
Bon, on passe à ta rubrique.
Ouais, alors on va parler de choses un peu moins techniques et un peu plus peut-être casual et voilà, cinéma, etc.
C'est bien, donc, c'est bien.
Ouais. Donc je disais en intro qu'on va parler donc des Fils de l'Homme, film d'Alfonso Cuarón, donc de 2006 également. Donc c'est un film qui, je vous fais un pitch très rapide et puis sans rien spoiler évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un film donc d'anticipation qui dépeint un monde où les humains ne peuvent plus procréer, ne peuvent plus faire d'enfants.
Alors, ils peuvent plus faire d'enfants.
Ouais.
Mais ils peuvent quand même procréer. Enfin, procréer, ils peuvent quand même essayer, quoi.
Oui,
non, c'est important.
Ok, donc quand tu veux dire qu'en termes de sexualité, tout va bien, on va pouvoir mourir dans la joie et la bonne humeur, mais par contre, ça ne donnera jamais d'enfant. C'est un peu ça l'idée.
Oh, je suis rassuré.
T'es rassuré? Ok, tout va bien. Non, parce que procréer, on est d'accord, ça veut dire
faire des enfants. Ouais. Oui, non, mais c'est en fait, comme j'étais
pas... On voit bien ce qui t'intéresse dans le fait de... Ok.
Non, ça, c'est important.
Non, mais je trouve ça très important aussi. Sauf que là, si tu veux, il y a un moment donné où si plus personne ne peut faire d'enfants, forcément l'humanité est amenée à s'éteindre d'ici une génération, la génération restante.
Ouais, bien sûr.
Et donc le film commence avec, avec le donc c'est vraiment, je vous spoil rien, c'est vraiment les trois premières minutes, le film commence avec l'assassinat, le décès de, du junior de l'humanité, je sais pas comment on peut dire,
c'est vrai,
du nom de bébé Diego, qui est un jeune...
dernier enfant.
Voilà, un jeune argentin, le dernier enfant né sur la Terre, quoi. Et il a 18 ans, je crois, un truc comme ça. Il avait 18 ans, puisqu'il vient de mourir.
Il est mort de quoi, d'ailleurs ?
Il s'est fait, je crois que c'est un assassinat, il me semble. Donc on voit des flash news à la télé, etc. Il me semble que c'est un...
Le plus jeune de l'humanité, c'est
voilà,
cool, quoi.
Pas cool. Donc ce jeune homme meurt, et donc il y a des scènes de larmes, machin, parce que tout le monde, symboliquement, c'est quand même assez fort ce qui se passe. L'humanité va s'éteindre, il n'y a plus d'enfants, et le junior de l'humanité décède, quoi. Et donc ce film, en fait, donc, il se passe en Angleterre. L'acteur principal, c'est Clive Owen. Et donc, ce mec est un espèce d'ancien activiste un peu désabusé, totalement alcoolique et un peu sur le retour comme ça. Et ça se passe vraiment dans un contexte. Donc, ça se passe dans les années 2027. Donc, au moment où c'est sorti, c'était dans 20 ans. Là, c'est dans 10 ans pour nous maintenant. Et c'est très. Ça dépeint d'un monde qui est. Potentiellement dans lequel on va vivre d'ici quelques années, enfin si on voit les choses de façon très pessimiste,
sans parler effectivement peut-être de
alors sans parler du côté procréation et tout ça. Mais par contre sur le côté politique,
sur le chômage et la procréation,
tout à l'heure
mais je te laisse finir.
Par contre sur le côté politique qui est dépeint sur l'environnement, on va dire humain, sur tout ce qui est sociétal et tout ça, c'est vraiment basé sur la situation de 2006 avec un espèce de coefficient plus et qu'est-ce qui pourrait se passer dans 20 ans. Donc il y a des vagues d'immigration sans précédent de gens qui essayent de rentrer en Angleterre et qui sont parqués dans des espèces de camps de réfugiés.
Il y avait des grilles aussi.
Voilà, il y a tout un univers comme ça qui est très violent.
Il y a un écho en fait.
Complètement, à ce qui se passe aujourd'hui.
Très fort,
c'est pour
hein,
ça que c'est intéressant aussi de ce genre de film quand il est quand le scénario est pensé de façon intelligente. Généralement, tu le regardes quelques années après, ça fait un peu écho, quoi. Donc voilà, la situation est vraiment.
Et du chômage aussi.
Bah, à fond, la caisse, hein, forcément.
Suite à la.
Suite à quoi ? Fini ta phrase.
C'est-à-dire que l'empire du Rex, tu vois, la société, elle ne fonctionne plus puisque les gens ne peuvent plus avoir d'enfants.
Ouais, tu crois que.
Alors, du coup, en fait, ça fait des millions et des millions de personnes en
chômage. Je suis pas sûr qu'il y ait des millions de personnes qui bossent chez du Rex. Hein. Je pense que tu surestimes un tout petit peu.
C'est vrai ?
Ouais.
Et tout ce qui concerne. Non.
Non, ne t'aventure pas là-dedans, s'il te plaît. Laisse-moi finir mon truc, on va jamais y arriver, quoi.
Bon, pardon, je m'excuse. J'arrête, ne parlerai plus.
J'arrête de parler de l'histoire parce que, voilà.
Je vais dévier,
ça va pas le faire. Bon, c'est vraiment un super film, c'est un petit bijou sur plusieurs points de vue. Alors, déjà, le casting est très chouette. Donc, je disais Clive Owen en acteur principal, qui a une vraie gueule et qui fait vraiment bien le job. Il y a Julianne Moore qui joue le personnage féminin, un des personnages féminins principaux de l'histoire.
Qui est super dans ce film.
Qui est une super actrice et qui vraiment est très touchante dans ce film aussi. Il y a, faut le noter, même s'il n'a pas un très gros rôle, il y a Michael Caine qui joue dedans, qui joue le rôle de... Donc Michael Caine, pour ceux qui ne sauraient plus qui c'est.
Ah si, je me rappelle.
C'est le Alfred des Batman de Nolan. Donc Michael Caine, là, il joue un personnage qui s'appelle Jasper, qui est assez haut en couleur, qui est vraiment cool. Voilà, bon, je vais pas vous faire le casting complet. Il y a l'apparition de Charlie Hunnam, pour ceux qui regardaient Sons of Anarchy, c'est le personnage principal de Jax, qui a une gueule de rien vraiment dans ce film et qui a un rôle assez à contre-emploi, qui est pas mal du tout. À contre-emploi par rapport à son personnage de beau gosse habituel.
D'accord. Il est toujours beau gosse un peu quand même ou pas trop ?
Il est toujours beau gosse actuellement, tu veux dire, en tant qu'acteur ?
Non, non, au niveau du film, on s'en fout.
Ah non, il est. Je pense que tu lui enlèves en fait les dreadlocks puantes, les dents en or, les machins. Il est beau gosse, mais.
Non, mais là, dans le film, il est vraiment pas top.
Ah non, c'est ce que je disais, il a une gueule de rien, vraiment.
C'est pas pour.
Bah, allez-y pour Clive Owen, hein, qui est quand même.
Qui est délicieux.
Qui est délicieux. délicieux. Entre deux verres de vodka, il est délicieux. Donc c'est une adaptation, ce film-là, d'un roman de Phyllis Dorothy James, donc qui est une écrivaine, romancière, si ça se dit écrivaine.
Si on peut.
Ouais, romancière anglaise, que moi je ne connaissais pas du tout, et puis pour être franc, avant de faire mes recherches sur le film, je ne savais pas du tout que c'était une adaptation, ce film-là, mais apparemment elle est plutôt habituée aux romans policiers. Elle est connue pour une série de livres un peu à la Sherlock Holmes qui s'appelle Adam Dalgliesh. Donc voilà, si vous voulez vous intéresser à ça, a priori c'est une très bonne romancière. À la réalisation, donc Alfonso Cuarón, qui est un mec que je suis attentivement depuis des années parce que je trouve qu'il a, il a une carrière assez impressionnante. Donc il a commencé par faire beaucoup de cadrage, de montage. Et ça se ressent, je trouve, dans ce film-là, parce qu'il a une vraie maîtrise de ce sujet-là. Il a bossé à la photographie aussi, sur certains films. C'est un film qui, vraiment, techniquement, est impressionnant. Si vous êtes adepte de plans-séquences, de cadrage, de photographie bien travaillée, bien léchée, vraiment, c'est un film qui va vous plaire. Il y a des plans-séquences vraiment impressionnants de justesse et techniquement, c'est complètement immersif dans ce film. Il y en a deux particulièrement, un plutôt au début, un plutôt vers la fin, qui sont super bluffants. Séquence de voiture, ouais, où la caméra tourne à l'intérieur du véhicule. Si ça vous intéresse ces sujets-là, et que le film vous plaît surtout, il y a un making-of qui est sorti. Alors, il y a eu plusieurs making-of, il y en a un en particulier, je ne saurais plus, mais je pense qu'on peut le trouver sur YouTube. Qui est sorti et qui montre comment ces scènes ont été réalisées, ces scènes de plan-séquence. C'est quand même bluffant, c'est des scènes de 10 ou 15 minutes où il y a donc un plan-séquence, ça veut dire qu'il n'y a pas de cut, quoi. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage.
Un petit peu comme notre podcast, quoi.
Exactement, voilà. Tout en plan-séquence.
Tout en plan-séquence avec une préparation, en revanche, que nous n'avons pas.
Plus ou moins, plus ou moins sérieuse.
Ouais, on va arrêter le parallèle, effectivement.
Ici. Ouais, je sais même pas si on peut parler de plan-séquence pour la captation audio, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, plan-séquence, par exemple, dans une bagnole, et donc sur le making-of, intéressant, vous pouvez voir comment ça a été réalisé et à quel point ça demande vraiment des moyens et une répétition, pour le coup, des acteurs très au cordeau, quoi, vraiment au poil.
Au poil, d'accord.
Donc le film est super intéressant de ce point de vue-là, mais aussi parce que pour moi il témoigne un peu d'une époque, donc de 2000 à 2005-2006 par exemple, où on avait des nouveaux réalisateurs mexicains qui arrivaient sur Hollywood et qui, je pense, ont amené une espèce de fraîcheur à Hollywood, c'était Hollywood de l'époque, qui était vraiment dans du gros blockbuster, donc... C'est toujours le cas aujourd'hui, mais il y a eu quand même un espoir à l'époque que ces réalisateurs-là, on va dire, amènent de la personnalité au film d'Hollywood, qui s'est quand même embourbé dans un espèce de système qui, je trouve, là, est en train de trouver ses limites avec les films de super-héros, etc.,
ouais,
les prequels, les sequels,
ouais,
les
gens très fans des super-héros, et à un moment, ça devient un peu...
Bon, voilà, moi, je suis très client de ces films-là, et pourtant j'en ai marre. Donc, c'est qu'il y a un petit souci.
Ouais,
je suis assez
d'accord.
Et donc, il y a Cuarón, qui fait partie de ces réalisateurs mexicains, mais il y a aussi, on peut noter, Iñárritu, qui a fait des films extraordinaires comme Beautiful avec c'est Gael García Bernal qui me vient, mais c'est pas lui du tout, je vais encore pas retrouver son nom, c'est pas grave, bref, un acteur...
Damien Verber.
Non, pas lui. Okay, non, alors, pour ceux qui ont vu le dernier James Bond, si, c'est... alors, pas le dernier, mais celui d'avant, c'est le gros méchant qui a des espèces de prothèses plein la gueule. Là.
Ah oui, d'accord. Je vois bien.
Je vais pas retrouver son nom.
Je n'arriverai jamais à le trouver.
Ouais. Donc, il y a ce réalisateur-là, Iñárritu, qui a fait quand même l'excellent The Revenant, qui est un film extraordinaire. Alors, bizarrement, c'est aussi un grand adepte de plans-séquences. Dans The Revenant, il y a des plans-séquences vraiment affolants aussi, techniquement. Donc, qui amène encore de l'immersion, et moi c'est vraiment ce que j'aime dans ces pratiques-là. Et puis, il y a aussi, il faut noter, Guillermo del Toro, qui a fait des films qui sont vraiment chouettes. Dans les mêmes époques, il a sorti par exemple Le Labyrinthe de Pan. Alors, Samuel va nous... Qu'est-ce qui se passe ?
Non, parce que moi je déteste... Enfin, détester, c'est un grand mot. Je trouve...
Déteste.
Mais non, détester, c'est un grand mot. Mais je trouve que c'est pas très réussi, en fait. Je l'ai revu il y a pas très longtemps, tu vois, mon Dieu, ça a super vieilli, ce truc-là.
Ouais, alors, moi, c'est peut-être que ça fait... Peut-être que je devrais le re-regarder, peut-être que j'étais jeune, mais je pense pas. Parce que
bah, j'avais des... En plus, moi, je me rappelle très bien, à l'époque, quand c'est sorti, j'avais vraiment envie de le voir, puis voilà, il y a eu beaucoup de temps, en fait, qui se sont... qui est passé, en fait, avant que je puisse le voir. Et puis, toi, tu m'avais fait une espèce de tableau dithyrambique du truc. Ouais, déjà, tu m'en avais parlé. Tu m'as dit, ah, regarde ça, c'est vraiment génial et tout.
Ouais,
j'y vais.
Parce que j'adore ce film.
Bah ouais. Et pff, oh là là. Oh bon. Là là, bouillotte.
Ouais, bah écoute, bon, c'était... Bah, après, c'est tout le problème, on pourra en reparler aussi, de quand quelqu'un te survend un truc, comme j'ai dû le faire, oui. Et que t'avais une attente énorme.
Si tu m'avais dit que c'était nul à chier, mais en même temps, ouais. Je serais pas allé le voir si tu m'avais dit que c'était nul.
Mais j'aurais pu te dire, juste, regarde ce film-là, sans forcément t'envoyer des tonneaux de fleurs.
Ouais, ça aurait été compliqué, non?
J'arrive pas du tout à m'arrêter de parler, en fait, c'est pour ça que... Bon, ah ouais, j'ai retrouvé le nom, en fait, c'est Javier Bardem dont je parlais tout à
l'heure. D'accord, tu vois,
Del Toro, il a fait Hellboy.
Il
a fait Hellboy, mais il a fait aussi Pacific Rim. Alors,
c'est terrifiant, en fait, de nullité et cool en même temps.
C'est tellement. Mais c'est un peu tout le problème, en fait. C'est que c'est là où je voulais en venir. Donc, bon, je le termine un peu avec Les Fils de l'Homme. Hein, je pense que j'ai un peu fait le tour. Allez voir ce film, il est vraiment top. Les réalisateurs mexicains dont je parlais, le souci, c'est que à part peut-être Iñárritu qui a gardé cette fraîcheur, Del Toro et puis Cuaron, ils sont quand même en train de se faire gentiment rattraper par le gros Hollywood, la grosse machine hollywoodienne. Je trouve que par rapport à leur premier film où ils avaient une vraie patte, un vrai truc, ils sont en train de se faire complètement noyer.
La piscine jacuzzi.
Bah, Pacific Rim, on est vraiment un des témoins. Je trouve qu'effectivement c'est un film très cool, mais en même temps, scénaristiquement ça tient sur un timbre et c'est vraiment pas foufou, quoi.
C'est dommage parce que y a quand même les robots, ils sont hyper cool, t'as envie de tabasser,
y a des moyens de malade et puis c'est super beau. Moi je me souviens de l'avoir vu au cinéma,
c'est horrible, quoi.
Mais l'histoire est nulle à chier, donc il faut être critique dans la
vie. Parce que
si on reparle de Cuarón deux secondes, alors toi je pense que t'as bien aimé, mais Gravity par exemple,
ouais, c'était bien, Gravity.
Autant techniquement ça envoyait du pâté, pareil, donc de la même façon, il y avait des plans séquences extraordinaires, il y avait des systèmes de cadrage. Encore une fois, je vous encourage à regarder le making of de Gravity, faut voir un peu le matos qu'ils avaient pour faire ces scènes de l'espace, etc. Mais c'est pareil, scénaristiquement, c'est... Bon, je pense que c'est un film, tu le vois au cinéma, c'est une expérience, sorti de là, ça vaut pas grand-chose, quoi.
Ouais, mais alors je suis pas d'accord, parce que c'est pas parce que, si tu veux, une histoire tient justement sur une ligne, que le film sera mauvais. Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est la tension, en fait, qui règne entre « putain, je suis là et je vais crever si j'arrive pas, en fait, à aller giga loin, quoi. » Et c'est ça qui est intéressant. Après, l'histoire en tant que telle, c'est pas très intéressant, mais t'es stressé d'un bout à l'autre, donc ça marche, quoi.
Ça marche. Après, j'ai passé un bon moment, enfin en tout cas j'ai été happé par le truc. C'est un film que je reverrai pas une deuxième fois, vraiment, je n'y vois aucun intérêt.
Alors Pacific Rim peut-être.
Pacific Rim, je l'ai vu deux fois et la deuxième fois c'était trop. Hein,
ah ouais, c'est vrai.
Ouais, parce que
un dimanche, tu sais, un lendemain un petit peu arrosé, tu te dis.
Oh, oui. Après, si t'as envie de te caler un truc un peu popcorn avec ton cinéma et ton machin, ça peut être cool. Mais faut pas s'attendre à redécouvrir le film sous un autre biais, etc. Ce qui est pas le cas des Fils de l'Homme, où ce film, je pense que j'ai dû le voir 10 fois, et les 10 fois j'ai vu des choses que j'avais pas vues les fois d'avant, quoi. Donc bon, ça, on pourrait discuter pendant des heures de si quoi un bon film,
t'as une histoire qui est quand même intéressante, t'as des effets spéciaux aussi qui sont pas mal, je crois que c'est ce que tu...
Dans les effets spéciaux des Fils de l'Homme, tu veux dire... Ouais, il y a un vrai taf de fou qui avait été fait sur les effets spéciaux à l'époque, avec des technologies qu'on voyait pas encore trop au cinéma, de motion performance, de choses comme ça. Il y a une scène, en particulier, que je dévoilerai pas du tout parce que c'est vraiment du spoil, qui fait appel à vraiment des techniques et...
Et c'est intégré dans la vraie vie quelque part aussi. La beauté du truc.
Il y a une patte un peu documentaire par certains moments, parce que le cadrage est fait donc au steadicam. Donc c'est le steadicam, pour ceux qui voient pas ce que c'est cette espèce de d'armure avec un bras, en fait, qui tient la caméra, qui permet d'avoir des plans à la fois très dynamiques, parce que ça permet de courir dans les bois avec sa caméra, mais pas en mode projet Blair Witch où ça va bouger dans tous les sens, vraiment avec une espèce de stabilité et de fluidité qui permet de faire des belles choses, mais très dynamiques, quoi. On a ce côté documentaire qui est donné par ce parti pris de cadrage et tout ça, et en même temps dans cet univers là il y a l'intégration d'effets spéciaux qui sont juste invisibles, tellement c'est bien intégré, justement, contrairement à certains films qui sortent aujourd'hui là, qui sont sortis cette semaine, où vraiment le CGI il pique les yeux parce que c'est...
Tu te rappelles de Rogue One où tu vois en fait... Tu vois, en fait, l'amiral côté...
Ouais, elle, Ouais, c'est assez.
Parce que le type est mort, quoi.
Bah ouais, je sais plus comment s'appelait l'amiral, ouais,
mais
effectivement, l'acteur est mort, et donc ils ont voulu refaire le visage complet, enfin refaire le personnage tout en image de synthèse.
Vraiment, c'est pratique, hein, tu dis le type meurt. Ok, on revoit les gars, pas de soucis. Allez hop! Mais bon, les textures, il va falloir pousser un peu du polygone, là, parce que...
Mais j'aurais 10 fois préféré qu'ils utilisent un acteur de chair et d'os et qu'ils nous disent, texto, ce mec-là, c'est l'amiral machin,
ouais.
Et terminé, on y croit, et puis on fait abstraction, quoi.
Je suis d'accord aussi.
Là, le côté peau en 3D, avec l'éclair... Enfin, c'est tellement grillé que c'est de l'image de synthèse qu'on n'arrive plus du tout à penser à autre chose. Moi, j'arrivais pas.
Mais moi, c'est pareil, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce type?
Je suis allé voir le film en sous-titré, tu vois, sous-titré français, et j'arrivais plus à regarder les sous-titres, tellement j'étais scotché à regarder en fait la gueule du mec et à me dire putain, c'est mal fait, quoi.
Ouais, c'est mal fait. Moi, j'avais tout le temps, enfin, j'étais là en train de me dire, mais putain, mais sors du champ.
Et en fait, le truc, c'est que c'est vraiment une question d'intégration, parce que
il y a Princesse Leia aussi qui est comme
voilà,
ça.
Ouais,
oh là là là, putain, ça fout méga.
Pour ceux qui l'ont pas vu.
Ah oui, merde. Ça fait 6 mois qu'il est sorti.
Ouais, les gars, réveillez-vous, 6 mois, c'est vraiment...
À un moment...
Si t'as pas revu Rogue One au bout de 6 mois, c'est que vraiment t'as raté ta vie, quoi.
Ouais, bah je l'ai vu la semaine dernière, mais...
T'étais à deux doigts de rater ta vie. Non, mais c'est vraiment une question d'intégration, parce que, en fait, tu regardes... Prends cet amiral machin, tu le mets, en fait, dans un jeu vidéo où tout est en 3D, ça passe bien, quoi.
C'est bluffant.
Mais là, dans un film, avec des acteurs de chair et d'os, des décors, en fait, réels, parce que c'était aussi la volonté de ces nouveaux Star Wars, c'est d'avoir des décors réels, des vraies maquettes de vaisseaux, et d'arrêter de tout faire en CGI, justement, par rapport à la menace fantôme et tout ça, où il y a eu des grosses critiques sur le truc. Et bah du coup, ils nous pètent un acteur tout en 3D là-dessus, bah ça marche pas du tout, quoi.
Non, bah ils ont tenté, et puis c'est un peu raté.
Voilà. Bon, donc comme d'habitude, le dossier a complètement vrillé, mais c'est pas très grave, c'était des conversations
Harry Potter, tout à fait riches. Harry Potter.
Ah, tu veux parler? Eh ouais, faut parler d'Harry Potter.
Non,
quand même.
Non, non.
Si,
bah,
si, non. Cuaron, alors, je veux juste dire que Cuaron, il a quand même fait, Alfonso Cuaron, le troisième Harry Potter, le film,
ouais.
Qui pour moi est un des meilleurs.
Un des meilleurs, ouais.
Voilà.
Pour toi, ouais.
Ouais. Mm. Parce qu'il est, plus adulte, plus sombre, il y a des vrais enjeux dans le film, et en termes de, justement, techniquement, etc., ça envoie vraiment du steak. Et en plus, c'est Alexandre Desplat qui a fait la bande originale, c'est pas John Williams. J'adore John Williams, hein, mais. Ça enlève ce côté enfantin qu'on pouvait trouver avec John Williams, sérieux.
C'est ce que je préfère, en fait.
Parce que voilà.
Je l'avais dit, hein, déjà. Ouais. Moi, j'aime bien les versions quand ils sont gamins, parce que une espèce, en fait, d'esprit enfantin qu'on retrouve pas du tout, évidemment, quand ils grandissent, avec aussi la menace, en fait, d'une espèce de monde nazi. Moi
qui te terrifie, quoi.
Ouais, enfin, peut-être terrifié, peut-être pas exagéré, parce que je vois bien en fait de quoi il retourne quand même, mais.
C'est un film.
Ouais, enfin bon.
C'est un roman à la base.
C'est un roman, il y a une symbolique quand même assez.
Non, mais c'est clairement.
Assez frappante, quoi, tu vois.
Tout à fait.
Voilà, moi, je trouve que c'est vachement plus intéressant. Il y a plus un côté un peu de Sherlock Holmes, un peu sympathique en fait dans les premiers épisodes. Qui vire après au côté ultra dramatique avec plein de morts et tout.
Bah, après, c'est.
Pas spoiler non plus, parce que pour le moment,
c'est le cas
si t'as pas vu Harry Potter.
Finalement, tu regardes à partir du 3 jusqu'à la fin, c'est beaucoup plus dramatique que rigolo, quand même.
Ouais.
Harry Potter.
Ouais, bah,
c'est beaucoup moins pour les enfants, quoi.
On est d'accord, mais c'est parce que tu grandis aussi. Normalement, tu grandis avec Harry Potter, puis du coup, voilà. Moi, je préfère, en fait, le côté fantastique et magique de Harry Potter dans les derniers épisodes, et ça a moins lieu d'être, en fait, quelque part.
Ouais, ça sert un peu de... Ça sert un peu effectivement de symbolique géante ou de métaphore géante d'une espèce de guerre 39-45.
Ouais, de ce qui est arrivé ou de ce qui arrivera.
Ah ouais, complètement. Mais du coup, c'est intéressant, encore une fois, c'est une espèce de.
Ouais, mais moi je trouve qu'il y a mieux à faire en fait avec ce monde que de transposer en fait des messages de ce type-là. Même si c'est un message qui est fort et qui est important, etc. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Je trouve que c'était un peu facile en fait.
Ouais, mais en fait, quand j'y pense, c'est presque la même démarche, version fantastique, c'est la même démarche que les Fils de l'Homme, avec cette espèce de dystopie, donc ce monde futuriste qui est dépeint, qui est un prolongement de notre monde actuel, mais en version très 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 dark, quoi. C'est un peu la même idée, hein, en fait.
Ouais, mais quand même.
Il n'y a pas de Halo Mora, il n'y a pas de, il y a pas d'Hermione, il y a pas Hermione Granger.
Mais carrément.
Du coup, c'est vachement moins bien.
C'est sûr.
Bon, ok. Bon. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. Moi, je pense que j'ai vraiment fait le tour de la question là. Et puis.
On vous la remercie, Tos.
Ah aussi. Ouais, Tos.
Merci, Tos, en fait. Et puis, toute l'équipe de Lifestyle aussi.
Ouais, ouais, qui nous a cités en fait.
Qui nous a cités, c'était vraiment très sympa. Ouais. Le 3 et 4 juin, a priori, il y a quelque chose qui se passe sur Rennes. C'est un événement qui s'appelle. Le podcast, je crois. Ah, je me rappelle plus.
Ouais. Bon, allez écouter Lifestyle, vous le saurez.
Ouais, voilà. C'est 3-4 juin sur Rennes. Ouais. Il y a un truc, en fait, sur les podcasts où il y a plein de gens hyper cool du podcast qui viennent. Nous, on n'est pas assez fameux pour être invités encore, mais peut-être qu'un jour, mon cher Benjamin, avec nos. On est passé à 11 auditeurs, là, en fait, je voulais te dire.
Plus ça, hein.
Ouais, cool.
Ouais. Bon, on espère aussi que le son aura été meilleur que la dernière fois. On a essayé de faire des petits efforts là-dessus parce qu'on a eu des petits retours. D'ailleurs, merci aux gens qui nous ont fait des retours.
Merci,
ça nous a permis
Kevin,
peut-être de nous améliorer un peu.
Etienne, ouais. etc. Donc, d'avoir fait des retours, c'était gentil là-dessus. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire autrement?
Prochain dossier, ce sera. Tu peux nous dire ce que ce sera toi déjà?
Ouais, moi je enfin, je sais pas sûr encore à 100%, mais je vais essayer de faire un truc sur les super-héros.
Un truc sur les super-héros, ça c'est cool. On va peut-être avoir un invité pour notre prochain podcast, on va pas dévoiler pour l'instant.
Ah bon?
Parce que c'est pas sûr.
Bon, on va voir.
On verra.
Ah ouais.
Et moi je ferai un dossier, si j'ai le temps de le préparer, sinon je ferai encore un truc sur un film que j'aime bien.
C'est pratique ça.
C'est vachement pratique, hein, c'est la roue de secours. Non, cette fois promis, prochaine fois je ferai un dossier sur le design, mais quand même avec un petit peu de cinéma dedans, puisqu'on va parler des interfaces dans les films.
Ah bah ça c'est vraiment cool ça.
Ouais, c'est une bonne façon de parler de mes deux passions.
Oh, j'ai tellement hâte d'être là la prochaine fois.
Comme tous nos auditeurs, je pense comme nos 11 auditeurs.
Merci à toi auditeur en tout cas, à très bientôt.
Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Salut Samos.
Salut.